From the conference center at
ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des étudiants de l'Université Brigham Young Idaho.
President Dieter F. Uhrdorf,
deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera ce soir cette session de la prêtrise.
Dear brethren,
chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 184e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Ces services sont disponibles via Internet et sont aussi diffusés par satellite aux détenteurs de la prêtrise dans de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des étudiants de l'Université Brigham Young, Idaho, sous la direction de Ronald Kempton et de Kevin Brower, avec Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Saints, behold our great Jehovah ». Ensuite, le grand R. Curtis des 70 fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
notre Père qui est aux cieux, nous te sommes reconnaissants pour les bénédictions qui sont les nôtres, celles de nous retrouver dans cette réunion, reconnaissants pour l'évangile de Jésus-Christ et pour la mission expiatoire de Sauveur, pour le rétablissement de l'évangile dans notre époque, pour le livre de Mormon et pour les bénédictions qui sont les nôtres d'avoir un prophète vivant, des prophètes vivants à notre tête. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être ensemble ce soir, afin de pouvoir être enseignés par des apôtres et des prophètes. Nous prions que nos cœurs et nos oreilles puissent être ouvertes, et nos esprits aussi, afin d'être bénis avec la compréhension, et que nous puissions ensuite mettre en pratique ce que nous recevrons comme instruction. Nous te demandons de bénir tous les membres de l'Église, de nous bénir, afin que nous fassions ce que tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus-Christ, amen.
The choir will now favor us.
Le chœur va maintenant chanter « Instant de paix, moment si doux ». Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Dallin H. Oaks du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Donald L. Alstrom, de la présidence des 70. Randall L. Reed, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, nous adressera ensuite la parole.
When we for the Lord I
Au cours de cette conférence, nous avons assisté à la relève de frères fidèles et nous avons soutenu l'appel d'autres frères fidèles. Dans cette rotation, si familière dans l'Église, nous ne sommes pas rétrogradés lorsque nous sommes relevés, ni promus lorsque nous sommes appelés. On ne peut pas être promu ou rétrogradé dans le service du Seigneur. On ne peut qu'avancer ou reculer. Et cette différence dépend de la manière dont nous réagissons à nos relèves et à nos appels. J'ai un jour présidé à la relève d'un jeune président de pieux qui avait servi de manière exemplaire pendant 9 ans et qui se réjouissait de sa relève et du nouvel appel que sa femme et lui venaient de recevoir. Ils étaient appelés comme dirigeants de la garderie de leur paroisse. C'est uniquement dans cette église que cela semble être un appel tout aussi honorable. Au cours d'une conférence pour les femmes, Linda K. Burton, présidente générale de la Société de secours, a dit « Nous espérons instiller dans le cœur de chacune d'entre nous un plus grand désir de mieux comprendre la prêtrise. Ce besoin s'applique à nous tous. » Et je vais poursuivre ce but en vous parlant des clés et de l'autorité de la prêtrise. Ces sujets étant d'égale importance pour les hommes et les femmes, je suis heureux que ces réunions soient diffusées et publiées pour tous les membres de l'Église. Le pouvoir de la prêtrise nous bénit tous. Les clés de la prêtrise dirigent aussi bien les femmes que les hommes, et les ordonnances de la prêtrise et l'autorité de la prêtrise s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Joseph F. Smith a décrit la prêtrise comme étant le pouvoir de Dieu délégué à l'homme par lequel il peut agir sur terre pour le salut de la famille humaine. D'autres dirigeants nous ont enseigné que la prêtrise est le pouvoir suprême ici-bas. C'est le pouvoir par lequel la terre a été créée. Les Écritures enseignent que cette même prêtrise qui était au commencement sera également à la fin du monde. Ainsi, la prêtrise est le pouvoir par lequel nous serons ressuscités et amenés à la vie éternelle. La compréhension que nous recherchons commence par une compréhension des clés de la prêtrise. Les clés de la prêtrise sont l'autorité que Dieu a donnée aux détenteurs de la prêtrise pour diriger, superviser et gouverner l'utilisation de sa prêtrise sur terre. Tout acte ou ordonnance accompli dans l'Église est accompli directement ou indirectement sous l'autorité d'une personne qui détient les clés pour cette fonction. Comme l'a expliqué M. Russell Ballard, les personnes qui détiennent les clés de la prêtrise permettent littéralement à toutes les personnes qui servent fidèlement sous leur direction d'exercer l'autorité de la prêtrise et d'avoir accès au pouvoir de la prêtrise. Dans le contrôle de l'exercice de l'autorité de la prêtrise, la fonction des clés de la prêtrise étend et limite tout à la fois. Elle étend en ce qu'elle permet à tous les enfants de Dieu de bénéficier de l'autorité et des bénédictions de la prêtrise. Elle limite en ce qu'elle désigne à qui sera donnée l'autorité de la prêtrise, qui détiendra ses offices et comment ses droits et ses pouvoirs seront conférés. Par exemple, une personne qui détient la prêtrise ne peut pas conférer son office ou son autorité à une autre personne, sauf si une personne qui détient les clés l'y autorise. Sans cette autorisation, l'ordination serait invalide. Cela explique pourquoi un détenteur de la prêtrise, quel que soit l'office, ne peut pas ordonner un membre de sa famille ni bénir la Sainte-Seine dans son propre foyer sans l'autorisation de la personne qui détient les clés appropriées. À l'exception de l'œuvre sacrée que les sœurs accomplissent dans le temple, sous la direction des clés détenues par le président du temple, que je décrirai ci-après, seule une personne qui détient un office de la prêtrise, peut officier dans une ordonnance de la prêtrise. Et toutes les ordonnances autorisées de la prêtrise sont portées dans les registres de l'Église. Au final, toutes les clés de la prêtrise sont détenues par le Seigneur Jésus-Christ, dont c'est la prêtrise. C'est lui qui détermine les clés qui sont déléguées aux mortels et la manière dont ces clés sont utilisées. Nous sommes habitués à penser que toutes les clés de la prêtrise ont été conférées à Joseph Smith dans le temple de Kirtland. Mais l'Écriture nous dit que tout ce qui a été conféré, c'était les clés de cette dispensation. Il y a de nombreuses années, au cours d'une conférence générale, le président Kimball nous a rappelé qu'il existe d'autres clés de la prêtrise qui n'ont pas été données à l'homme sur terre, notamment les clés de la création et de la résurrection. La nature divine de la limitation mise sur l'exercice des clés de la prêtrise explique une différence essentielle entre les décisions en matière d'administration de l'Église et les décisions qui affectent la prêtrise. La première présidence et le conseil de la première présidence et du Collège des Douze, qui préside l'Église, ont reçu le pouvoir de prendre beaucoup de décisions qui affectent les règles et les modalités de l'Église, dans des domaines tels que l'emplacement des bâtiments de l'Église et l'âge requis pour le service missionnaire. Mais bien que ces autorités présidentes détiennent et exercent toutes les clés de la prêtrise actuellement déléguées à l'homme dans cette dispensation, elles ne sont pas libres de modifier le processus décrété par Dieu qui veut que seuls les hommes détiennent les offices de la prêtrise. J'en viens maintenant au sujet de l'autorité de la prêtrise. Je commencerai par les trois principes que je viens d'aborder. Premièrement, la prêtrise est le pouvoir de Dieu délégué à l'homme pour agir pour le salut de la famille humaine. Deuxièmement, l'autorité de la prêtrise est gouvernée par des détenteurs de la prêtrise qui détiennent les clés de la prêtrise. Et troisièmement, comme les Écritures déclarent que toutes les autres autorités et tous les autres offices de l'Église sont des annexes de cette prêtrise de Melchisédek, tout ce qui est fait sous la direction de ces clés de la prêtrise se fait avec l'autorité de la prêtrise. Comment cela s'applique-t-il aux femmes ? Dans un discours adressé à la Société de Secours, Joseph Fielding Smith, alors président du Collège des Douze Apôtres, a dit « Bien que les sœurs n'aient pas reçu la prêtrise, qu'elle ne leur ait pas été conférée, cela ne signifie pas que le Seigneur ne leur a pas donné de l'autorité. Une personne peut recevoir de l'autorité, ou une sœur peut en recevoir pour accomplir certaines choses dans l'Église qui ont force de loi et sont absolument nécessaires pour notre salut, comme l'œuvre que nos sœurs accomplissent dans la maison du Seigneur. Elles reçoivent l'autorité de faire des choses grandes et merveilleuses, sacrées pour le Seigneur, et qui lient tout autant que les bénédictions qui sont données par les hommes qui détiennent la prêtrise. » Dans ce discours important, le président Smith redit et répète que les femmes ont reçu de l'autorité. Il a dit aux femmes, « Vous pouvez parler avec autorité, parce que le Seigneur a placé de l'autorité sur vous. » Il a également dit que la Société de Secours a reçu le pouvoir et l'autorité de faire de nombreuses choses. L'œuvre que les sœurs accomplissent est accomplie par l'autorité divine. Fin de citation. Et bien sûr, l'œuvre accomplie dans l'Église par les hommes et les femmes dans le temple, dans les paroisses ou les branches, est accomplie sous la direction de ceux qui détiennent les clés de la prêtrise. S'adressant à la Société de Secours, le président Smith a expliqué « Le Seigneur a montré le chemin qu'elles doivent suivre et leur a donné cette organisation où elles ont l'autorité de servir sous la direction de l'évêque de la paroisse, veillant sur les intérêts à la fois spirituels et temporels de notre peuple. » Fin de citation. Ainsi, il est clairement dit que pour les femmes de la Société de Secours, Ce n'est pas simplement une classe, mais une organisation à laquelle elles appartiennent. Une annexe de la prêtrise voulue par Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de dire des femmes qu'elles ont l'autorité de la prêtrise dans leurs appels dans l'Église. Mais quelle autre autorité est-ce que cela peut être? Quand une femme, jeune ou âgée, est mise à part comme missionnaire à plein temps, elle reçoit de l'autorité de la prêtrise pour accomplir une fonction de la prêtrise. Il en va de même quand une femme est mise à part comme officier ou instructrice dans une organisation de l'Église sous la direction d'une personne qui détient les clés de la prêtrise. Quiconque agit dans un office ou un appel reçu d'une personne qui détient les clés de la prêtrise exerce l'autorité de la prêtrise dans l'accomplissement de ses devoirs. Quiconque exerce l'autorité de la prêtrise doit oublier ses droits et se concentrer sur ses responsabilités. C'est un principe dont nous avons besoin dans la société en général. Le célèbre écrivain russe, Alexandre Solzhenitsyn, a dit « Il est temps que dans l'Ouest, on défende moins les droits de l'homme que les obligations de l'homme. » Les saints des derniers jours sont les premiers à reconnaître que les qualifications pour l'exaltation ne sont pas une affaire de revendication de droit, mais d'accomplissement de responsabilité. Le Seigneur a décidé que seuls les hommes seraient ordonnés aux offices de la prêtrise. Mais comme plusieurs dirigeants de l'Église l'ont souligné, les hommes ne sont pas la prêtrise. Les hommes détiennent la prêtrise, avec le devoir sacré de l'utiliser pour le bien de tous les enfants de Dieu. Le plus grand pouvoir que Dieu ait donné à ses fils ne peut être exercé sans le partenariat avec une de ses filles, car c'est uniquement à ses filles que Dieu a donné le pouvoir d'être créatrice de corps, afin que le dessein et le grand plan de Dieu parviennent à maturité. Ce sont les paroles de J. Reuben Clark. Il poursuit, « Telle est la place de nos épouses et de nos mères dans le plan éternel. Elles ne détiennent pas la prêtrise, elles ne sont pas chargées de remplir les devoirs et les fonctions de la prêtrise, ni chargées de ses responsabilités. Elles construisent et organisent sous son pouvoir et prennent part à ses bénédictions, car elles possèdent le complément des pouvoirs de la prêtrise et une fonction tout aussi divine, d'une importance tout aussi éternelle dans son domaine que la prêtrise elle-même. » Fin de citation. C'était de la famille que frère Clark parlait dans ses paroles inspirées. Comme l'exprime la déclaration au monde sur la famille, le père préside dans la famille, la mère et lui ont des responsabilités distinctes, mais ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Des années avant la déclaration sur la famille, Spencer W. Kimball a donné cette explication inspirée. Quand nous disons que le mariage est un partenariat, parlons-en comme d'un partenariat à part entière. Nous ne voulons pas que nos femmes dans l'Église soient des partenaires silencieuses ou limitées dans cette tâche éternelle. Veillez à être des partenaires actives et à part entière. » Fin de citation. Aux yeux de Dieu, que ce soit dans l'Église ou dans la famille, les hommes et les femmes sont égaux avec des responsabilités différentes. Je conclus par quelques vérités sur les bénédictions de la prêtrise. Contrairement aux clés de la prêtrise et aux ordinations, les hommes et les femmes ont accès aux bénédictions de la prêtrise sous les mêmes conditions. Le don du Saint-Esprit et les bénédictions du Temple sont des exemples bien connus de cette vérité. L'été dernier, dans son excellent discours prononcé au cours de la semaine de l'éducation de l'université Brigham Young, M. Russell Ballard a donné les enseignements suivants. Dans la doctrine de l'Église, la femme est l'égale de l'homme tout en étant différente. Dieu ne considère pas un sexe comme meilleur ou plus important que l'autre. Quand les hommes et les femmes vont au temple, ils sont dotés du même pouvoir, qui est le pouvoir de la prêtrise. Tous les enfants de Dieu ont accès au pouvoir et aux bénédictions de la prêtrise. Je témoigne du pouvoir et des bénédictions de la prêtrise de Dieu, accessible à ses filles comme à ses fils. Je témoigne de l'autorité de la prêtrise qui fonctionne grâce à tous les offices et à toutes les activités de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je témoigne que la volonté divine est à la base du fonctionnement des clés de la prêtrise détenues et exercées dans leur plénitude par notre prophète et président Thomas S. Monson. Enfin, et c'est le plus important, je témoigne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont c'est la prêtrise et dont nous sommes les serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that
nous regardons cette réunion mondiale. Ça nous rappelle qu'il n'existe nulle part d'ailleurs d'événement comparable à ce rassemblement. Le but de la session de la prêtrise de la conférence générale est d'enseigner aux détenteurs de la prêtrise quelle sorte d'hommes nous devons être et de nous inspirer à atteindre cet idéal. Au cours de mes années dans la prêtrise d'Aaron à Hawaï, il y a un demi-siècle, et pendant la mission en Angleterre, nous nous réunissions dans les églises et, avec un effort intense, nous écoutions la session de prêtrise à l'aide d'une connexion téléphonique. Au cours des années qui ont suivi, les satellites ont permis la diffusion dans des endroits choisis de l'église avec d'énormes antennes paraboliques pour nous permettre d'entendre et de voir les réunions. Nous étions époustouflés par cette technologie. Peu de personnes auraient pu imaginer le monde d'aujourd'hui où toute personne qui a accès à Internet avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur peut recevoir les messages de cette réunion. Cependant, cette possibilité accrue d'accéder à la voix des serviteurs du Seigneur, ce qui est la même chose que la voix du Seigneur lui-même, a peu de valeur si nous ne sommes pas prêts à recevoir la parole et à la suivre. Pour le dire en termes simples, le but de la conférence générale et de cette session de la prêtrise n'est atteint que lorsque nous sommes prêts à agir, si nous sommes disposés à changer. Il y a plusieurs dizaines d'années, j'étais évêque. Je me suis entretenu sur une longue période avec un homme de notre paroisse qui était de nombreuses années mon aîné. Ce frère avait une relation compliquée avec sa femme et s'était éloigné de ses enfants. Il avait du mal à conserver un emploi, il n'avait pas d'amis proches et il trouvait les relations avec les membres de la paroisse si difficiles qu'il a fini par ne plus vouloir œuvrer dans l'église. Au cours d'une intense discussion sur les problèmes de sa vie, il s'est penché vers moi et, pour conclure nos nombreux entretiens, a dit « Frère, j'ai un mauvais caractère et je suis simplement comme ça. » Cette réflexion m'a laissé pantois ce soir-là et me hante depuis lors. Une fois que cet homme a eu décidé, une fois que nous décidons que nous sommes comme ça, nous renonçons à notre capacité de changer. Nous pourrions aussi bien hisser le drapeau blanc et déposer les armes, accepter la défaite et nous rendre. Nous avons perdu toute perspective de victoire. Certains parmi nous pourraient penser que ce n'est pas leur cas. Nous démontrons probablement chacun par au moins une ou deux mauvaises habitudes que c'est comme ça que nous sommes. Eh bien, nous sommes réunis dans cette session de la prêtrise parce que la personne que nous sommes n'est pas celle que nous pouvons devenir. Nous sommes réunis ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis avec l'assurance que son expiation donne à chacun de nous la capacité de changer, quelles que soient nos faiblesses, nos infirmités et nos dépendances. Nous sommes réunis avec l'espoir que notre avenir peut être meilleur, peu importe notre histoire. Quand nous participons à cette réunion avec l'intention réelle de changer, l'Esprit a un accès complet à notre cœur et à notre esprit. Le Seigneur a révélé au prophète Joseph, « Il arrivera que s'ils font preuve de foi en moi, et souvenez-vous, la foi est un principe d'action, je déverserai mon esprit sur eux le jour où ils s'assembleront. » Cela veut dire ce soir. Si vous pensez que vos difficultés sont insurmontables, laissez-moi vous parler d'un homme que nous avons rencontré en 2006 dans un petit village dans la région de Hyderabad en Inde. Cet homme était l'exemple même de la volonté de changer. Apparao Nulu est né dans l'Inde rurale. À l'âge de 3 ans, il a contracté une polio qui l'a physiquement handicapé. La société dans laquelle il vit lui a enseigné que son potentiel était gravement limité. Cependant, jeune adulte, il a rencontré les missionnaires. Ils ont appris l'existence d'un plus grand potentiel, tant dans cette vie que dans l'éternité à venir. Il a été baptisé et confirmé membre de l'Église. Sa perspective s'étant fortement améliorée, il s'est fixé pour but de recevoir la prêtrise de Melchisedec et de faire une mission à plein temps. En 1986, il a été ordonné ancien et appelé à servir en Inde. Ce n'était pas facile de marcher. Il faisait de son mieux à l'aide d'une canne dans chaque main et il tombait souvent. Mais il était hors de question d'abandonner. Il avait pris l'engagement de faire sa mission de manière honorable et dévouée et il a tenu cet engagement. Quand nous avons rencontré Frère Nulu près de 20 ans après sa mission, il nous a chaleureusement accueillis au bout du chemin et nous avons emprunté un sentier de terre battue, chaotique, vers la maison de 2 pièces qu'il partageait avec sa femme et ses 3 enfants. Ce jour-là, il faisait extrêmement chaud et humide. Il marchait toujours très difficilement, mais il ne s'apitoyait pas sur son sort. Grâce à sa diligence personnelle, il est devenu instituteur, instruisant les enfants du village. Quand nous sommes entrés dans son humble demeure, il m'a immédiatement emmené dans un coin et a sorti une boîte qui contenait ses biens les plus précieux. Il voulait me montrer un bout de papier. Il y était écrit « Mes meilleurs vœux et toutes mes bénédictions à Frère Nulu, un missionnaire heureux et courageux, daté du 25 juin 1987, signé de Boyd K. Packer. » À l'époque, quand Frère Packer était venu en Inde et s'était adressé à un groupe de missionnaires, il avait affirmé à Frère Nulu son potentiel. En résumé, ce que Frère Nulu m'a dit ce jour-là en 2006 était que l'Évangile avait changé sa vie de façon permanente. Le président de mission nous accompagnait au cours de cette visite chez les Nulu. Il était venu s'entretenir avec frères et sœurs Nulu et leurs enfants pour que les parents reçoivent leur dotation et soient scellés et que les enfants soient scellés à leurs parents. Nous avons également présenté à la famille des arrangements pour qu'elle puisse aller au temple de Hong Kong pour ses ordonnances. Ils ont pleuré de joie à la perspective de la réalisation si longtemps attendue de ce rêve. Qu'est-il attendu de quelqu'un qui détient la prêtrise de Dieu ? Quels changements sont requis de nous pour devenir la sorte d'homme que nous devons être? Voici 3 suggestions. La première, nous devons être des hommes de la prêtrise. Que nous soyons jeunes gens détenteurs de la prêtrise d'Aaron ou des hommes détenant la prêtrise de Melchisedec, nous devons être des hommes de la prêtrise faisant preuve de maturité spirituelle parce que nous avons contracté des alliances. Comme l'a dit Paul, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous devrions être différents parce que nous détenons la prêtrise, non pas de façon arrogante, orgueilleuse ou condescendante, mais humble et réceptive. Recevoir la prêtrise et ses différents offices devrait avoir une signification particulière pour nous. Ce ne devrait pas être un rite superficiel de passage qu'on accomplit automatiquement à un certain âge, mais un acte sacré, réfléchi, par lequel on contracte une alliance. Nous devrions être si honorés et si reconnaissants que cela se verrait dans toutes nos actions. Si ce n'est que rarement que nous pensons à la prêtrise, nous devons changer. Deuxièmement, nous devons servir. L'essence même de la possession de la prêtrise est de magnifier notre appel en servant les autres. Éviter notre devoir le plus important de servir notre épouse et nos enfants, ne pas accepter ou remplir passivement des appels dans l'Église, ou ne pas nous soucier des autres, sauf si ça nous arrange, ce n'est pas la sorte d'homme que nous devons être. Le Sauveur a déclaré, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et plus tard, il a ajouté, « Si tu m'aimes, tu me serviras. » L'égoïsme est l'antithèse de la responsabilité dans la prêtrise, et si c'est un trait de notre personnalité, nous devons changer. Troisièmement, nous devons être dignes. Je n'ai peut-être pas la capacité de Frère Hollande quand il a dit au cours d'une session de la prêtrise il y a quelques années, « Je vais rapprocher mon visage du vôtre, nez à nez avec juste assez de feu pour vous roussir les sourcils. » Mais mes chers frères, nous devons nous rendre compte à quel point les pratiques communément acceptées dans le monde étouffent notre pouvoir dans la prêtrise. Si nous pensons pouvoir flirter avec la pornographie ou désobéir à la loi de chasteté, ou être malhonnête sous quelque forme que ce soit, sans que cela ait un effet négatif sur nous ou sur notre famille, nous sommes dans l'erreur. Moroni a dit, « Veillez à tout faire avec dignité. » Le Seigneur nous a enseigné avec puissance, et je vous donne maintenant le commandement de prendre garde à vous-même et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. S'il existe des péchés non résolus qui empêchent notre dignité, nous devons changer. La seule réponse complète à la question posée par Jésus-Christ, « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» est celle qu'il a donnée de façon succincte et profonde, « Tel que je suis ». L'invitation à aller au Christ et à être rendu parfait en lui exige et nécessite un changement. Dans sa miséricorde, il ne nous a pas laissés seuls. Le Seigneur a dit, « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » En nous appuyant sur l'expiation du Sauveur, nous pouvons changer. J'en suis certain. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Young men, you have probably heard
jeunes gens, vous avez probablement déjà entendu que vous êtes une génération élue, voulant dire par là que Dieu vous a choisi et préparé pour venir sur terre à cette époque dans un but grandiose. Je sais que c'est vrai. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à vous comme étant la génération des choix. Car jamais auparavant dans l'histoire des gens n'ont eu la bénédiction de pouvoir faire autant de choix. Plus de choix veut dire plus de possibilités. Et plus de possibilités veut dire plus de potentiel de faire le bien. Et malheureusement, le mal. Je crois que Dieu vous a envoyé ici à cette époque parce qu'il vous fait confiance pour discerner avec succès parmi la variété déconcertante de choix possibles. En 1974, le président Kimball a dit, « Je crois que le Seigneur a hâte de mettre entre nos mains des inventions que nous, profanes, pouvons à peine imaginer. » Fin de citation. Et il l'a fait. Vous grandissez avec l'un des outils les plus profitables et les plus formidables de l'histoire du monde, l'Internet. Il est accompagné d'un éventail de choix très riches. Cette abondance de choix s'accompagne toutefois d'une portion égale de responsabilité. Il facilite à la fois votre accès au meilleur et au pire que le monde a à offrir. Avec lui, vous pouvez accomplir de grandes choses en un court laps de temps, ou vous pouvez vous retrouver pris dans une spirale sans fin de futilité qui vous font perdre votre temps et affaiblissent votre potentiel. D'un simple clic, vous pouvez avoir accès à tout ce que votre cœur désire. C'est la clé. Quels sont les désirs de votre cœur? Autour de quoi gravitez-vous? Où vos désirs vous mèneront-ils? Souvenez-vous que Dieu accorde aux hommes selon leurs désirs et qu'il jugera tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. Bruce R. McConkie a dit, dans un sens réel, bien que figuratif, le livre de vie est le registre des actions des hommes, ce registre étant écrit dans leur propre corps. Chaque pensée, chaque parole et chaque action a un effet sur le corps humain. Chacune d'elles laisse sa marque, laquelle peut être lue par l'Éternel aussi facilement que l'on peut lire les mots dans un livre. Fin de citation. L'Internet enregistre aussi vos désirs, exprimés sous la forme de recherches et de clics. Ils sont légions à attendre de répondre à ces désirs. Quand vous surfez sur Internet, vous laissez des traces. Ce que vous communiquez, où vous êtes allé, combien de temps vous y êtes resté, et le genre de choses qui vous intéressent. C'est par ce moyen que l'Internet crée votre cyberprofil, votre cyberlivre de vie, en quelque sorte. Comme dans la vie, l'Internet vous donne de plus en plus ce que vous cherchez. Si vos désirs sont purs, l'Internet peut les magnifier, vous permettant de vous engager toujours plus facilement dans des activités de valeur. Mais le contraire est vrai aussi. Neil Maxwell l'a dit ainsi. Ce que nous désirons avec insistance dans la durée est ce que nous finirons par devenir et ce que nous recevrons dans l'éternité. Ce n'est qu'en éduquant et en formant nos désirs que nous pouvons faire des alliés au lieu qu'ils soient nos ennemis. Fin de citation. Mes jeunes frères, si vous ne prenez pas l'initiative d'éduquer vos désirs, le monde le fera pour vous. Chaque jour, le monde cherche à influencer vos désirs en vous incitant à acheter quelque chose, à cliquer sur quelque chose, à jouer à quelque chose, à lire ou à regarder quelque chose. Le choix vous appartient en dernier ressort. Vous avez le libre arbitre. C'est le pouvoir non seulement d'agir selon vos désirs, mais aussi de les raffiner, de les purifier et de les élever. Le libre arbitre, c'est votre pouvoir de devenir. Chaque choix vous rapproche ou vous éloigne de ce que vous êtes censé devenir. Chaque clic a de l'importance. Posez-vous toujours la question, où ce choix va-t-il me mener? Acquérez la capacité de voir au-delà du moment présent. Satan veut contrôler votre libre arbitre afin de contrôler ce que vous devenez. Il sait que l'un des meilleurs moyens de le faire est de vous piéger dans un comportement qui va créer une dépendance. Vos choix déterminent si la technologie va vous rendre puissant ou esclave. Je vous propose 4 principes pour vous aider, vous, la génération des choix, à éduquer vos désirs et à vous guider dans l'utilisation que vous faites de la technologie. Premièrement, il vous sera plus facile de prendre vos décisions si vous savez qui vous êtes vraiment. J'ai un ami qui a appris cette vérité d'une manière très personnelle. Son fils a été élevé dans la connaissance de l'Évangile, mais il semblait s'être égaré spirituellement. Il déclinait souvent les occasions d'exercer la prêtrise. Ses parents étaient déçus quand il a annoncé qu'il avait décidé de ne pas faire de mission. Mon ami a prié avec ferveur pour son fils, espérant qu'il ait un changement de cœur. Ses espoirs se sont évanouis quand son fils annonçait qu'il s'était fiancé, allait se marier hors du temple. Le père a supplié son fils de recevoir sa bénédiction patriarcale. Le fils a finalement accepté, mais a insisté pour rencontrer le patriarche seul. Quand il est revenu après la bénédiction, il est apparu bouleversé. Il a pris sa fiancée et l'a emmenée dehors, où il pourrait parler avec elle en privé. Le père a jeté un coup d'œil à la fenêtre et a vu le jeune couple, chacun essuyant les larmes de l'autre. Plus tard, le fils a dit à son père ce qui s'était passé. Très ému, il a expliqué que pendant la bénédiction, il avait eu un aperçu de ce qu'il était dans le monde prémortel. Il avait vu sa vaillance et l'influence qu'il avait exercée pour persuader les autres de suivre le Christ, sachant qu'il était vraiment. Comment pourrait-il ne pas faire de mission? Jeunes gens, rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Souvenez-vous que vous détenez la sainte prêtrise. Cela vous poussera à faire de bons choix lorsque vous utilisez l'Internet et tout au long de votre vie. Deuxièmement, connectez-vous à la source du pouvoir. Vous tenez la sagesse de toutes les générations dans la paume de votre main. Chose plus importante, vous tenez les paroles des prophètes depuis l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à Thomas S. Monson. Mais si vous ne recherchez pas régulièrement votre téléphone portable, il devient inutile et vous vous sentez perdu et déconnecté. Vous n'envisageriez pas de laisser passer un seul jour sans charger votre batterie. Aussi important qu'il soit de partir de chez vous chaque jour avec une batterie complètement chargé dans votre téléphone portable, il est beaucoup plus important d'être complètement chargé spirituellement. Chaque fois que vous branchez votre téléphone, utilisez cela comme un rappel et demandez-vous si vous êtes branché à la source la plus importante de pouvoir spirituel, la prière et l'étude des Écritures, qui vous chargeront d'inspiration provenant du Saint-Esprit. Cela vous aidera à connaître la volonté du Seigneur pour faire les choix quotidiens, petits, mais important, qui détermine la direction que vous suivez. Nous interrompons immédiatement ce que nous sommes en train de faire pour lire un SMS. Ne devrions-nous pas nous accorder encore plus d'importance au message venant du Seigneur? Il devrait être impensable pour nous de négliger de nous connecter à cette source de pouvoir. Troisièmement, posséder un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent, ne vous rend pas intelligent. Mais l'utiliser avec sagesse le peut. Jeunes gens, ne faites pas de choses stupides avec votre smartphone. Vous savez tout ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il y a une infinité de moyens par lesquels la technologie peut vous détourner de ce qui est le plus important. Suivez l'adage. Soyez là où vous êtes quand vous y êtes. Quand vous conduisez, conduisez. Quand vous êtes en classe, concentrez-vous sur la leçon. Quand vous êtes avec des amis, faites-leur don de votre attention. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. La gestion multitâche revient à transférer rapidement son attention d'une chose à une autre. Un vieux proverbe a dit, « Qui trop embrasse, mal étreint. » Dernier point. Le Seigneur donne la technologie pour accomplir ses desseins. L'objectif divin de la technologie est de hâter l'œuvre du salut. En tant que membre de la génération des choix, vous comprenez la technologie. Utilisez-la pour accélérer votre progression vers la perfection. Vous avez tant reçu, vous devez aussi donner. Le Seigneur attend de vous que vous utilisiez cet outil formidable pour relever son œuvre au niveau supérieur, pour faire connaître l'Évangile par des moyens qui dépassent l'imagination la plus folle de ma génération. Là où les générations passées exerçaient une influence sur leurs voisins et leurs villes, vous avez le pouvoir de franchir les frontières et d'influencer le monde entier grâce à l'Internet et aux médias sociaux. Je témoigne que cette Église est celle du Seigneur. Vous avez été choisi pour prendre part à son œuvre à cette époque parce qu'il vous fait confiance pour faire les bons choix. Vous êtes la génération des choix. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you, brethren, for this inspired...
Merci, chers frères, pour ces messages inspirés. Le chœur et l'assemblée chanteront maintenant Hosanna au grand roi. Après ce cantique, j'aurai le plaisir de m'adresser à vous. Après mon discours, nous entendrons Henri Beiring, premier conseiller dans la première présidence.
Il
y a près de 200 ans, une nouvelle intitulée Rip Van Winkle devenait du jour au lendemain un classique. Le personnage principal est un homme sans ambition, passé maître dans l'art d'éviter deux choses, le travail et sa femme. Un jour, pendant qu'il se promène avec son chien dans les montagnes, il découvre un groupe d'hommes étrangement vêtus en train de boire et de jouer. Après avoir accepté leur alcool, Rip a envie de dormir et ferme les yeux pendant un instant. Quand il les rouvre, il est surpris de découvrir que son chien est parti, que son fusil a rouillé et qu'il a maintenant une longue barbe. Il rentre dans son village et découvre que tout a changé. Sa femme est morte, ses amis sont partis, et le portrait du roi George III qui se trouvait dans la taverne a été remplacé par un portrait de quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, le général George Washington. Rip Van Winkle a dormi pendant 20 ans, et ce faisant, il a raté l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de son pays. Il a dormi pendant la guerre d'indépendance. En mai 1966, Martin Luther King a utilisé cette histoire pour illustrer un de ses discours intitulé « Ne dormez pas pendant la Révolution ». Je vais traiter aujourd'hui du même thème et poser la question à tous les frères qui détiennent la prêtrise de Dieu. Êtes-vous en train de dormir pendant le rétablissement? Nous considérons parfois le rétablissement de l'Évangile comme étant quelque chose de terminé, qui se trouve déjà derrière nous. Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon, il a reçu les clés de la prêtrise, l'Église a été organisée. En réalité, le rétablissement est un processus encore en cours. Nous le vivons en ce moment. Il comprend tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et les choses grandes et importantes qu'il révélera encore. Frères, les événements passionnants actuels font partie de la période de préparation prédite depuis longtemps, qui trouvera son aboutissement au moment de la seconde venue en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une des périodes les plus remarquables de l'histoire du monde. Les prophètes d'autrefois ont aspiré à voir notre époque. Quand notre temps dans la condition mortelle sera terminé, quelles expériences pourrons-nous raconter concernant notre contribution à cette période importante de notre vie et à l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Pourrons-nous dire que nous avons retroussé nos manches et travaillé de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces? Ou devrons-nous admettre que notre rôle s'est limité à celui d'un observateur? Je suppose qu'il y a toutes sortes de raisons de tomber dans la somnolence quand il s'agit de l'édification du royaume de Dieu. Je vais en nommer trois principales. Ce faisant, je vous invite à vous demander s'il y en a qui pourraient s'appliquer à vous. Si vous voyez des possibilités d'amélioration, je vous demande de réfléchir à ce qui peut être fait pour changer en mieux. Tout d'abord, l'égoïsme, et nous en avons déjà entendu parler ce soir. L'égoïsme. Les personnes qui sont égoïstes recherchent par-dessus tout leur intérêt et leur plaisir personnel. La question centrale que se pose une personne égoïste est « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Frère, je suis sûr que vous pouvez voir que cette attitude est nettement contraire à l'esprit requis pour édifier le royaume de Dieu. Quand nous recherchons les services intéressés, le service intéressé au détriment du service désintéressé, nos priorités se concentrent sur notre avantage et nos plaisirs personnels. Les générations passées ont dû affronter diverses formes d'égoïsme, mais actuellement, nous leur faisons sérieusement concurrence. Est-ce une coïncidence que le dictionnaire d'Oxford est annoncé récemment que le mot de l'année est « selfie » ? Nous avons tous le désir naturel d'être reconnus, et il n'y a rien de mal à se détendre et à s'amuser. Mais lorsque la recherche du gain et des louanges du monde est au cœur de notre motivation, nous ratons les expériences rédemptrices et joyeuses qui se produisent lorsque nous donnons généreusement de nous-mêmes à l'œuvre du Seigneur. Quel est donc le remède? La réponse, comme toujours, se trouve dans les paroles du Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Les personnes qui consacrent sans réserve leur vie à notre Sauveur et servent Dieu et leurs semblables, découvrent une richesse et une plénitude de vie que les égoïstes ne connaîtront jamais. Les personnes désintéressées donnent d'elles-mêmes. Cela peut être des petits cadeaux de charité qui ont une grande influence bénéfique. Un sourire, une poignée de main, une accolade, du temps passé à écouter, une parole douce d'encouragement ou un geste d'attention. Tous ces actes de gentillesse peuvent changer les cœurs et les vies. Quand nous saisissons les occasions illimitées d'aimer et de servir nos semblables, notamment notre femme et les membres de notre famille, notre capacité d'aimer Dieu et de servir les autres augmente grandement. Les personnes qui servent les autres ne sont pas en train de dormir pendant le rétablissement. Une autre chose qui peut nous mettre en état de somnambulisme pendant cette période importante pour le monde est la dépendance. Une dépendance commence souvent sournoisement. C'est un ensemble de fins fils d'actions répétées qui se tissent entre eux pour former les cordes épaisses de l'habitude. Les mauvaises habitudes ont le potentiel de devenir des dépendances dévorantes. Ces chaînes de la dépendance peuvent avoir de nombreuses formes, comme la pornographie, l'alcool, le sexe, la drogue, le tabac, le jeu, la nourriture, le travail, Internet ou la réalité virtuelle. Satan, notre ennemi commun, a beaucoup d'outils efficaces à sa disposition pour nous priver de notre potentiel divin qui nous permet d'accomplir notre mission dans le royaume du Seigneur. Cela attriste notre Père Céleste de voir avec quel empressement certains de ses nobles fils tendent les poignets pour accepter les chaînes de dépendance dévastatrices. Frères, nous détenons la prêtrise éternelle du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les fils du Très-Haut et nous sommes dotés d'un potentiel indicible. Nous sommes conçus pour nous envoler librement dans les cieux et non pour être enchaînés au sol, prisonniers d'une camisole de force faite par nous-mêmes. Quel est donc le remède ? La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il est bien plus facile de prévenir une dépendance que d'en guérir. Comme l'a dit le Sauveur, ne permettez à aucune de ces choses d'entrer dans votre cœur. Il y a plusieurs années, on nous a offert au président Monson et à moi l'occasion de visiter l'Air Force One, le magnifique avion qui transporte le président des États-Unis. Il y a eu des contrôles de sécurité méticuleux par les services secrets et j'ai souri lorsque des agents ont fouillé le prophète avant qu'il monte à bord. Le commandant de bord m'a invité à prendre la place du premier pilote. Cela a été une expérience remarquable de m'asseoir à nouveau aux commandes d'une merveilleuse machine volante comme celle que j'avais pilotée pendant tellement d'années. Mon cœur et mon esprit étaient pleins de souvenirs des vols au-dessus des océans et des continents. J'imaginais les décollages et les atterrissages passionnants dans les aéroports des quatre coins du monde. Presque inconsciemment, j'ai mis les mains sur la quadruple manette des gaz du Boeing 747. Juste à ce moment-là, une voix bien aimée et bien connue s'est fait entendre derrière moi, la voix du président Monson. Il a dit « Dieter, n'y pensez même pas !»
I'm not admitting to anything, but
je ne fais aucun aveu. Mais il se peut que le président Monson ait lu mes pensées. Quand nous sommes tentés de faire des choses que nous ne devrions pas, écoutons la mise en garde aimante des membres de notre famille et des amis en qui nous avons confiance, de notre prophète bien-aimé et bien évidemment toujours du Sauveur. La meilleure protection contre la dépendance est de ne jamais commencer. Mais qu'en est-il des personnes qui sont la proie d'une dépendance? Sachez d'abord qu'il y a de l'espoir. Cherchez l'aide de vos proches, des dirigeants de l'Église et de thérapeutes formés. L'Église offre de l'aide pour guérir de la dépendance par l'intermédiaire des dirigeants locaux de l'Église, d'Internet et dans certaines régions des services SDJ pour la famille. Souvenez-vous toujours qu'avec l'aide du Seigneur, vous pouvez vous libérer de la dépendance. Le chemin peut être long et difficile, mais le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il vous aime. Jésus-Christ a souffert l'expiation pour vous aider à changer, pour vous libérer de la captivité du péché. Le plus important est de continuer d'essayer. Il faut parfois plusieurs essais avant de réussir. Alors, n'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Que votre cœur reste proche du Seigneur et il vous donnera le pouvoir de vous délivrer. Il vous rendra libre. Mes chers frères, éloignez-vous toujours des habitudes qui peuvent conduire à la dépendance. Ceux qui le font pourront consacrer leur cœur, leur pouvoir, leur esprit et leur force au service de Dieu. Ils ne dormiront pas pendant le rétablissement. Un troisième obstacle qui nous empêche d'être totalement engagés dans cette œuvre, ce sont les nombreux conflits de priorités que nous rencontrons. Certains d'entre nous sont tellement occupés qu'ils ont l'impression d'être une charrette tirée par une dizaine d'animaux de trait, chacun tirant dans une direction différente. Beaucoup d'énergie est dépensée, mais la charrette ne va nulle part. Nous consacrons souvent nos meilleurs efforts à un passe-temps, un sport, des intérêts professionnels, des questions en rapport avec la collectivité ou la politique. Toutes ces choses peuvent être bonnes et honorables. Mais nous laissent-elles le temps et l'énergie pour ce qui devrait être notre priorité absolue? Quel est donc le remède? Une fois de plus, il se trouve dans les paroles du Sauveur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les autres choses de notre vie devraient passer après ces deux grandes priorités. Même dans le service dans l'Église, il est facile de passer beaucoup de temps à faire les choses machinalement, sans avoir le cœur ou la substance qui fait un disciple. Frères, nous, détenteurs de la prêtrise, nous sommes engagés à être un peuple qui aime Dieu et notre prochain et qui est disposé à montrer cet amour en parole et en action. C'est l'essence de ce que nous sommes, des disciples de Jésus-Christ. Les personnes qui suivent ces principes ne sont pas en train de dormir pendant le rétablissement. L'apôtre Paul a écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Chers amis, sachez que vous êtes des fils de lumière. Ne vous laissez pas aller à l'égoïsme. Ne vous laissez pas aller à des habitudes qui peuvent conduire à la dépendance. Ne laissez pas d'autres priorités vous bercer afin de vous rendre indifférent ou détaché de la condition bénie du disciple et du service en oubliant de la prêtrise. L'enjeu est trop important pour nous. Nos familles, et l'Église du Christ, pour que nos efforts soient si peu enthousiastes pour cette œuvre sacrée. Les efforts pour être disciples de Jésus-Christ ne s'accomplissent pas une fois par semaine ou une fois par jour. Ce sont des efforts que nous avons décidé de faire une bonne fois pour toutes. La promesse du Seigneur à ses détenteurs de la prêtrise est presque trop grandiose pour qu'on la comprenne. Les frères qui sont fidèles à ces deux prêtrises et magnifient leur appel sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé. C'est pourquoi tout ce que notre Père a leur sera donné. Je témoigne que le pouvoir purificateur de l'expiation de Jésus-Christ et le pouvoir transformateur du Saint-Esprit peuvent guérir et secourir l'humanité. C'est notre prérogative, notre devoir sacré et notre joie d'écouter l'appel du Sauveur, de le suivre d'un esprit bien disposé et d'un cœur pleinement résolu. Secouons les chaînes dont nous sommes liés et sortons de l'obscurité et levons-nous de la poussière. Réveillons-nous et ne nous lassons pas de bien faire, car nous posons les fondements d'une grande œuvre, la préparation même du retour de notre Sauveur. Frères, lorsque vous ajoutez la lumière de votre exemple comme témoignage de la beauté et du pouvoir de la vérité rétablie, vous n'êtes pas en train de dormir pendant le rétablissement. J'en témoigne et vous donne ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, amen.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Chers frères, je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur soit avec vous et avec moi. Nous avons tous des héros, en particulier quand nous sommes jeunes. Je suis né et j'ai grandi à Princeton, dans le New Jersey. Les équipes sportives les plus célèbres près de chez nous avaient leur siège à New York. C'était le berceau de trois équipes de baseball professionnelles, les Dodgers de Brooklyn, les Giants de New York et les Yankees de New York. Philadelphie était encore plus près de chez nous, était le siège des équipes de baseball Athletics et Phillies. Il y avait pour moi beaucoup de héros potentiels dans ces équipes. Joe DiMaggio, qui jouait pour les Yankees de New York, est devenu mon héros de baseball. Quand mes frères et mes amis jouions au baseball sur le terrain de l'école près de la maison, j'essayais de frapper la balle comme je pensais que Joe DiMaggio le faisait. C'était avant l'époque de la télévision, alors je n'avais que les photos des journaux sur lesquelles me baser pour imiter son mouvement. Quand j'étais adolescent, mon père m'a emmené au stade des Yankees. Cela a été la seule fois que j'ai vu Joe DiMaggio jouer. J'ai l'impression d'y être encore. Je le vois encore faire son mouvement de balancier et je vois la balle blanche filer droit dans les tribunes centrales. Mes compétences en baseball n'ont jamais approché celles du héros de mon enfance. Mais les quelques fois où j'ai bien frappé la balle, j'imitais aussi consciencieusement que je le pouvais le niveau de ce mouvement puissant. Lorsque nous choisissons des héros, nous commençons à imiter consciemment ou pas ce que nous admirons le plus chez eux. Heureusement, mes parents ont eu la sagesse de mettre de grands héros sur mon chemin quand j'étais enfant. Mon père ne m'a emmené qu'une seule fois au stade des Yankees pour regarder jouer mon héros de baseball. Mais chaque dimanche, il m'a permis d'observer un homme de la prêtrise qui est devenu un héros. Ce héros a façonné ma vie. Mon père était le président de la petite branche qui se réunissait chez nous. Lorsque vous veniez chez nous, en fait, au rez-de-chaussée, c'était l'église. Notre branche ne comptait jamais plus de 30 personnes présentes. Il y avait un jeune homme qui conduisait sa mère chez nous pour les réunions, mais qui ne rentrait jamais dans la maison. Il n'était pas membre. C'est mon père qui a réussi à l'inviter à rentrer. Il s'est fait baptiser et est devenu mon premier et mon unique dirigeant de la prêtrise d'Aaron. Il est devenu mon héros de la prêtrise. Je me souviens encore de la statue en bois qu'il m'a donnée en récompense après que nous avions terminé le projet de couper du bois de chauffage pour une veuve. J'essaye d'être comme lui chaque fois que je fais des compliments qui sont mérités à un serviteur de Dieu. J'ai choisi un autre héros dans cette petite branche. Il était dans la marine des États-Unis et venait à nos réunions vêtu de son uniforme vert. C'était la guerre. Cela, à lui seul, faisait de lui mon héros. Il avait été envoyé à l'université de Princeton par la marine pour poursuivre ses études. Mais bien au-delà de son uniforme militaire, je le regardais jouer au stade Palmer comme capitaine de l'équipe universitaire de football de Princeton. Je l'ai vu jouer dans l'équipe universitaire de basketball et je l'ai également regardé jouer le rôle de receveur vedette dans leur équipe de baseball. Et plus encore, il est venu chez moi pour me montrer comment lancer un ballon de basket de la main gauche et de la main droite. Il m'a dit que j'aurais besoin de cette compétence parce qu'un jour, je jouerais dans de bonnes équipes de basketball. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais pendant des années, il a été pour moi un exemple de véritable homme de la prêtrise. Chacun de vous sera un modèle d'homme de la prêtrise, que vous le vouliez ou non. Vous êtes devenu une bougie allumée quand vous avez accepté la prêtrise. Le Seigneur vous a mis sur le chandelier pour éclairer le chemin de toutes les personnes qui vous entourent. C'est particulièrement vrai de celles qui sont dans votre collège de la prêtrise. Vous pouvez être un grand exemple, un exemple moyen ou un mauvais exemple. Vous pouvez penser que cela vous est égal, mais ce ne l'est pas pour le Seigneur. Il l'a formulé ainsi, je cite, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » J'ai eu la bénédiction d'avoir l'exemple de grands détenteurs de la prêtrise dans les collèges où j'ai eu la chance de servir. Vous pouvez faire ce qu'ils ont fait pour moi en étant un exemple à suivre. J'ai remarqué trois caractéristiques communes aux détenteurs de la prêtrise qui sont mes héros. L'une d'elles est une façon de prier. La deuxième est une habitude du service. Et la troisième est la détermination inébranlable d'être honnête. Nous prions tous, mais le détenteur de la prêtrise que vous voulez être prie souvent et avec une attention réelle. Le soir, vous vous agenouillerez et remercierez Dieu des bénédictions de la journée. Vous le remercierez pour vos parents, vos instructeurs, et pour les bons exemples à suivre. Vous décrirez précisément dans votre prière quelle personne a été une bénédiction pour vous au cours de cette journée et comment. Cela prendra plus que quelques minutes et pas mal de réflexion. Cela vous surprendra et vous transformera. En priant pour obtenir le pardon, vous vous prendrez à pardonner aux autres. En remerciant Dieu de sa bonté, vous penserez à d'autres, nominativement, qui ont besoin de votre bonté. Cette expérience aussi vous surprendra chaque jour, et au fil du temps, elle vous transformera. Une des manières dont vous serez transformé par des prières aussi ferventes est que vous sentirez que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Lorsque vous saurez que vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez aussi qu'il attend beaucoup de vous. Parce que vous êtes son enfant, il attendra que vous suiviez ses enseignements et les enseignements de son cher Fils, Jésus-Christ. Il attendra de vous que vous soyez généreux et aimable avec les autres. Il sera déçu si vous êtes orgueilleux et égocentrique. Il vous bénira si vous avez le désir de faire passer les intérêts des autres avant les vôtres. Certains d'entre vous sont déjà des exemples de services désintéressés de la prêtrise. Dans les temples du monde entier, des détenteurs de la prêtrise arrivent avant le lever du soleil, et certains œuvrent bien longtemps après son coucher. Il n'y a pas de reconnaissance ou d'acclamation publique pour ce sacrifice de temps et d'effort. Je suis allé avec des jeunes, tandis qu'ils servaient des gens du monde des esprits, qui n'avaient pas pu recevoir les bénédictions du temple en personne. Quand je vois le bonheur, plutôt que la fatigue, sur le visage des frères qui servent là tôt le matin et tard le soir, je sais qu'il y a de grandes récompenses dans cette vie pour ce genre de service désintéressé de la prêtrise. Mais c'est seulement un gage de la joie qu'ils connaîtront avec les personnes dans le monde des esprits auxquelles ils ont rendu service. J'ai vu ce même bonheur sur le visage des personnes qui parlent aux autres des bénédictions qui découlent de l'appartenance au royaume de Dieu. J'ai entendu parler d'un président de branche qui amène presque tous les jours aux missionnaires des personnes à instruire. Il y a à peine quelques mois, il n'était pas encore membre de l'Église. Maintenant, des missionnaires enseignent et une branche progresse en nombre et en force grâce à lui. Mais en plus, il est une bénédiction pour d'autres qui ouvrent la bouche et hâtent ainsi le rassemblement par le Seigneur des enfants de notre Père Céleste. En priant et en servant votre prochain, vous verrez grandir votre connaissance que vous êtes un enfant de Dieu. Vous serez davantage conscient qu'il est attristé quand vous êtes malhonnête. Vous serez plus déterminé à tenir parole. Vous serez plus attentif à ne rien prendre qui appartienne à autrui. Vous serez plus honnête envers votre employeur. Vous serez plus déterminé à être à l'heure et à mener à bien chaque tâche qui vous est confiée par le Seigneur et que vous avez acceptée. Au lieu de se demander si les instructeurs au foyer vont venir, les enfants des familles que vous êtes appelés à instruire attendront votre visite avec impatience. Mes enfants ont eu cette bénédiction. En grandissant, ils ont eu des héros de la prêtrise qui les ont aidés à se tracer leur route au service du Seigneur. Cet exemple béni est maintenant en train de passer à la troisième génération. Mon message est aussi un message de gratitude. Je vous remercie de vos prières. Je vous remercie de vous agenouiller en reconnaissance du fait que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous priez le Dieu des cieux pour exprimer vos remerciements et pour lui demander de vous bénir, vous et votre famille. Je vous remercie des services que vous rendez et pour les fois où vous n'avez pas éprouvé le besoin de recevoir des hommages pour votre service. Nous avons accepté la mise en garde du Seigneur que si nous recherchons les hommages dans ce monde pour notre service, nous risquons de nous priver de bénédictions plus grandes. Vous vous souvenez de ces paroles. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Les hommes qui ont été mes exemples de grands détenteurs de la prêtrise ne reconnaissent pas facilement qu'ils possèdent des qualités héroïques. En fait, ils semblent avoir du mal à voir ce que j'admire tant. J'ai mentionné le fait que mon père était un président fidèle d'une minuscule branche de l'église au New Jersey. Plus tard, il a été membre du bureau général de l'école du dimanche. Pourtant, je parle aujourd'hui avec modestie de son service dans la prêtrise, parce qu'il était ainsi. Il en est de même du marin, qui était le héros de mon enfance. Il ne m'a jamais parlé de son service de la prêtrise ou de ses réalisations. Il se contentait de servir. C'est par d'autres personnes que j'ai découvert sa fidélité. Je ne saurais dire s'il voyait chez lui les caractéristiques que j'admirais. Les conseils que j'ai à vous donner, à vous qui voulez faire du bien aux autres par votre prêtrise, ont donc trait à votre vie qui est privée pour tous, sauf pour Dieu. Priez-le, remerciez-le de tout ce qui est bon dans votre vie, demandez-lui quelles sont les personnes qu'il a mises sur votre chemin pour que vous les serviez, suppliez-le de vous aider à rendre ce service, priez pour pouvoir pardonner et être pardonné. Ensuite, servez-les, aimez-les et pardonnez-leur. Par-dessus tout, souvenez-vous que tous les services que vous rendez, aucun n'est plus grand que celui d'aider les gens à se qualifier pour la vie éternelle. Dieu a donné cette directive majeure sur la manière d'utiliser notre prêtrise. Il en est l'exemple parfait. C'est l'exemple que nous voyons à moindre échelle chez ses serviteurs mortels. Et le Seigneur Dieu parla à Moïse disant, « Les cieux sont nombreux, et l'homme ne peut les compter, mais ils me sont comptés, car ils sont miens. Et lorsqu'une terre et ses cieux passeront, une autre viendra. Et il n'y a pas de fin à mes œuvres, ni à mes paroles. Car voici, mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Nous devons aider dans cette œuvre. Chacun de nous peut faire changer les choses. Nous avons été préparés pour notre époque et notre lieu dans les derniers jours de cette œuvre sacrée. Chacun de nous a eu la bénédiction d'avoir des exemples de personnes qui ont fait de cette œuvre l'objectif principal de leur temps sur la terre. Je prie pour que nous puissions nous aider mutuellement à être à la hauteur de cette chance. Dieu le Père vit et exaucera vos prières en vous accordant l'aide dont vous avez besoin pour bien le servir. Jésus-Christ est le Seigneur ressuscité. Cette Église est la sienne. La prêtrise que vous détenez est le pouvoir d'agir en son nom, dans son œuvre, qui est de servir les enfants de Dieu. Si vous vous donnez de tout votre cœur à cette œuvre, il vous magnifiera. C'est là ma promesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Frères, nous vous remercions pour votre présence ce soir. Nous remercions aussi le chœur de la prêtrise pour la musique inspirante et toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de cette session. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, le président Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Reste avec nous, Seigneur ». La prière de clôture sera faite par Russell T. Osgurthorpe, qui a été relevé cet après-midi de l'appel de président général de l'école du dimanche, président Monson.
My beloved brethren,
mes frères bien-aimés, comme il est bon d'être avec vous une fois de plus, je prie pour que le ciel m'aide à profiter de l'occasion de m'adresser à vous. Au-delà de ce centre de conférence se trouvent des milliers d'autres personnes réunies dans des églises et dans d'autres endroits dans une grande partie du monde. Un lien commun nous unit tous, car la responsabilité nous a été confiée, la prêtrise de Dieu. Nous sommes ici sur la terre en une période remarquable de son histoire. Nos possibilités sont quasi illimitées et cependant, nous affrontons aussi une multitude de problèmes, dont certains sont propres à notre époque. Nous vivons dans un monde où les valeurs morales ont dans une grande mesure été rejetées, où le péché est présenté au grand jour et où les tentations de s'éloigner du chemin étroit et resserré nous environnent. Nous devons faire face à des pressions persistantes et à des influences insidieuses qui jettent à bas ce qui est décent et tentent d'y substituer les philosophies et les pratiques frivoles d'une société profane. En raison de ces problèmes et d'autres, nous affrontons constamment des décisions qui peuvent déterminer notre destinée. Pour prendre les bonnes décisions, il faut du courage. Le courage de dire non quand nous le devons. Le courage de dire oui quand c'est approprié. Le courage de faire ce qui est bien parce que c'est bien. La tendance de la société actuelle s'éloignant rapidement des valeurs et des principes que le Seigneur nous a donnés, nous serons très certainement amenés à devoir défendre ce en quoi nous croyons. Aurons-nous le courage de le faire? J. Reuben Clark, fils, qui a été membre de la première présidence pendant de nombreuses années, a dit, « Il y a des cas, et ils ne sont pas rares, où des hommes censés avoir la foi ont pensé que puisqu'en déclarant pleinement leur foi, ils risquaient de s'attirer les moqueries de leurs collègues incroyants, ils devaient soit modifier, soit justifier leur foi, ou la diluer, ce qui revient à la détruire, ou même faire semblant de la renier. Ce sont des hypocrites. Aucun d'entre nous ne souhaiterait porter une telle étiquette, et pourtant, hésitons-nous à déclarer notre foi dans certaines circonstances? Une chose qui peut nous aider dans notre désir de faire ce qui doit être fait, c'est d'aller dans des endroits et de participer à des activités qui auront un effet bénéfique sur nos pensées et où l'Esprit du Seigneur se sentira à l'aise. Je me rappelle avoir lu il y a un certain temps la recommandation qu'un père a faite à son fils quand il est parti faire des études. Je cite, « Si jamais tu t'aperçois que tu te trouves là où tu ne devrais pas être, va-t'en. » Fin de citation. Je fais la même recommandation à chacun de vous. Si jamais vous vous apercevez que vous vous trouvez là où vous ne devriez pas être, allez-vous-en. L'appel à être courageux est constamment lancé à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de courage chaque jour de notre vie, pas seulement pour les événements importants, mais plus souvent, lorsque nous prenons des décisions ou répondons à des situations dans notre entourage. Le poète et romancier écossais Robert Louis Stevenson a dit, « Le courage de tous les jours a peu de témoins, mais celui dont vous faites preuve n'est pas moins noble parce qu'il n'est pas accompagné de roulements de tambour et qu'aucune foule ne clame votre nom. » Le courage revêt plusieurs formes. L'auteur chrétien Charles Swindoll a écrit, « Le courage ne se cantonne pas au champ de bataille, au fait d'attraper avec bravoure un voleur chez soi. Les vrais tests de courage sont beaucoup plus discrets. Ce sont des tests intérieurs. Celui de rester fidèle quand personne ne regarde, par exemple. Celui de défendre seul sa position quand on n'est pas compris. J'ajouterais que ce courage intérieur, c'est aussi de faire ce qui doit être fait, même quand on a peur, défendre ses convictions au risque d'être l'objet de moqueries, et y rester fidèle, même quand on court le risque de perdre des amis ou son statut social. Celui qui défend fermement ce qui est juste doit courir le risque d'être désapprouvé et impopulaire de temps à autre. Lorsque j'étais au service actif dans la marine américaine, la Seconde Guerre mondiale, j'ai entendu parler d'actes de bravoure, de vaillance et d'exemples de courage. Je n'oublierai jamais le courage discret d'un marin de 18 ans, d'une autre religion que la nôtre, qui n'était pas trop orgueilleux pour prier. Des 250 hommes de la compagnie, il était le seul à s'agenouiller chaque soir près de sa couchette, parfois au milieu des moqueries, des chahuteurs et des plaisanteries des incroyants. La tête inclinée, il priait Dieu. Il n'hésitait jamais, il ne faiblissait jamais, il avait du courage. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté l'exemple de quelqu'un qui semblait assurément manquer de ce courage intérieur. Une amie m'a parlé d'une réunion de Sainte-Seine spirituelle et édifiante à laquelle son mari et elle avaient assisté dans leur paroisse. Un jeune prêtre de la prêtrise d'Aaron a touché le cœur de tous les membres de l'Assemblée lorsqu'il a parlé des vérités de l'Évangile et de la joie qu'apporte l'obéissance au commandement. Il a rendu un témoignage fervent et touchant à la chair, propre et présentant bien dans sa chemise blanche ornée d'une cravate. Plus tard ce jour-là, alors que cette femme et son mari quittaient leur quartier en voiture, ils ont vu ce même jeune homme qui les avait tant inspirés seulement quelques heures auparavant. Mais à présent, il avait une toute autre allure, longeant le trottoir dans une tenue débraillée et fumant une cigarette. Mon ami et son mari ont non seulement été grandement déçus et attristés, mais aussi perplexes de voir avec quelle facilité il pouvait passer de la personne qui faisait grande impression d'une manière si convaincante à la réunion de Sainte-Seine à cette autre personne entièrement différente. Frères, êtes-vous la même personne, où que vous soyez et quoi que vous fassiez? La personne que notre Père Céleste veut que vous soyez et que vous savez que vous devez être. Dans une interview publiée dans une revue nationale, on a demandé au célèbre Jabari Parker, basketteur universitaire américain et membre de l'Église, de citer le meilleur conseil qu'il avait reçu de son père. Jabari a répondu que son père lui avait dit « Sois exactement la même personne, que tu sois dans l'ombre ou dans la lumière. » Un conseil important. Sois exactement la même personne, que tu sois dans l'ombre ou dans la lumière. Un conseil important, mes frères, pour nous tous. Nos Écritures sont remplies d'exemples du type de courage dont chacun de nous a besoin aujourd'hui. Le prophète Daniel a fait preuve d'un courage suprême en défendant ce qu'il savait être juste et en ayant le courage de prier, bien qu'étant menacé de mort s'il le faisait. Le courage est un trait distinctif de la vie d'Abinadi, comme en témoignage de sa disposition à perdre la vie plutôt que de nier la vérité. Qui pourrait ne pas être inspiré par la vie des 2000 jeunes guerriers d'Élaman qui ont enseigné et démontré la nécessité du courage pour suivre les enseignements des parents, d'être chastes et purs? Tous ces récits scripturaires ne pourront sans doute pas voler la vedette à l'exemple de Moroni, qui a eu le courage de persévérer dans la justice jusqu'à la fin. Tout au long de sa vie, Joseph Smith, le prophète, a donné d'innombrables exemples de courage. L'un des plus impressionnants de ces exemples, il l'a donné alors qu'il se trouvait enchaîné avec d'autres frères détenus dans une cabane inachevée à côté du tribunal de Richmond, au Missouri. Parley P. Pratt, qui se trouvait parmi les prisonniers, a fait le récit d'une nuit particulière, je cite, « Nous étions restés allongés, comme endormis, jusqu'à ce que minuit fût passé. Et nous avions les oreilles et le cœur meurtris d'avoir entendu pendant des heures les plaisanteries obscènes, les jurons horribles, les blasphèmes terribles et le langage malpropre de nos gardes. Frère Parat poursuit, j'avais écouté jusqu'à être si dégoûté, choqué, horrifié et si rempli d'esprit de justice indigné que j'avais du mal à me retenir de me lever et de réprimander les gardes. Mais je n'avais rien dit à Joseph, ni à personne d'autre, bien que je fusse allongé à côté de lui et sus qu'il était éveillé. Soudain, il se leva et parla d'une voix de tonnerre ou comme un lion rugissant, disant, dans la mesure où je peux m'en souvenir, ce qui suit. Silence ! Au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande et je vous commande de vous taire. Je ne vivrai pas un instant de plus pour entendre un pareil langage. Cessez ce genre de conversation, ou bien vous et moi, vous ou moi mourrons à l'instant. Joseph se tenait droit avec une majesté terrible, selon les termes de frère Pratt. Il était enchaîné et sans armes, et pourtant il était serein et digne. Il posait les yeux sur les gardes tremblants qui se blottissaient dans un coin ou rampaient à ses pieds. Ces hommes, apparemment incorrigibles, lui demandèrent pardon et restèrent silencieux. Les actes de courage ne produisent pas tous des effets aussi spectaculaires ou immédiats, mais tous apportent la paix de l'esprit et l'assurance que le droit et la vérité ont été défendus. Il est impossible de se tenir droit quand on plante ses racines dans les sables mouvements de l'opinion et de l'approbation populaire. Pour nous attacher fermement à ce que nous savons être juste, nous avons besoin du courage de Daniel, d'Abinadi, de Moroni ou de Joseph Smith. Ils avaient le courage de faire ce qui était juste. Et non ce qui était facile. Nous devrons tous affronter la peur, les moqueries et l'opposition. Ayons le courage, tous, de défier le consensus, le courage de défendre nos principes. C'est le courage et non la compromission qui apporte le sourire de l'approbation divine. Le courage devient une vertu vivante et attrayante quand il est considéré non seulement comme une disposition à mourir vaillamment, mais aussi comme une détermination à vivre décemment. En nous efforçant d'avancer, en vivant comme nous le devrions, nous sommes assurés de recevoir l'aide du Seigneur et de pouvoir trouver du réconfort dans ses paroles. J'aime sa promesse, rapportée dans le livre de Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fin de citation. Mes frères bien-aimés, armés du courage de nos convictions, puissions-nous déclarer avec l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ. Puis, avec ce même courage, puissions-nous suivre la recommandation de Paul. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Les conflits catastrophiques surviennent, dépassent, mais la guerre pour la conquête de l'âme des hommes continue sans relâche. Comme un clairon retentissant, la parole du Seigneur nous est adressée à vous, à moi et aux détenteurs de la prêtrise en tout lieu. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Alors, nous serons, comme l'a déclaré l'apôtre Pierre, un sacerdoce royal, uni dans notre objectif et doté du pouvoir d'en haut. Puisse chacun de nous partir ce soir avec la détermination et le courage de dire comme Job autrefois, aussi longtemps que j'aurai ma respiration, je ne me départirai pas de mon intégrité. Je prie humblement qu'il puisse en être ainsi. Et j'offre cette prière sincèrement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Père qui es aux cieux, nous sommes reconnaissants ce soir du privilège que nous avons eu de participer dans cette réunion pour les paroles qui ont été prononcées, pour les chants qui ont été chantés, d'avoir pu ressentir ta présence. Nous te remercions pour cela. Nous te prions afin d'avoir le courage que le président Benson nous a demandé d'avoir, le courage de tendre vers les autres, de participer au rétablissement qui continue, et le courage d'être des héros de la prêtrise qui sont dignes d'être suivis. Nous prions d'avoir le courage pour partir de cette réunion et de partager ces choses avec les autres et de d'y penser et de les partager, et qu'à cause de cela nous serons rendus plus forts et que nous renforcerons les autres autour de nous. Nous prions pour ceux qui souffrent, afin que nous puissions penser à leurs besoins et tendre vers eux avec amour et pouvoir de la prêtrise pour que ton œuvre puisse aller de l'avant et puisse remplir cette terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.